On est toujours dans ce plateau animé par Radio Royan dans le cadre de ces saisons décoloniales consacrées au racisme et à la santé mentale, ce que le racisme fait à nos santé mentales, en présence d'Anuradha Raghunandan, de Sophie Ndiaye, de Thi et moi-même pour cette discussion. Et on a parlé d'exil, on a parlé de transmission, on a parlé de silence et on va y revenir. On va dans cette troisième partie parler de soins et de comment on peut soigner, prendre soin de ses traumas et de ses santé mentale. Juste avant, Sophie, tu parlais du silence et que parfois peut-être le silence il est nécessaire pour que le trauma existe et qu'il agit un peu comme une protection, ce silence-là. Et je me faisais la réflexion au moment où tu as dit ça, que en Occident, nos thérapies, notamment la psychanalyse, mais elles sont beaucoup basées sur des thérapies par la parole, et que peut-être ça rentre en contradiction parfois. Et je voulais vous citer une citation de Douce Dibondo dans La charge raciale, où elle a un chapitre sur la psychopolitique que je vous invite vraiment à lire ou relire. Et elle dit qu'on peut aussi penser que la culture de la thérapie formelle est à l'opposé du fonctionnement des cultures noires, c'est-à-dire l'obligation à être dans l'ouverture, la vulnérabilité et l'égocentrisme, alors que nous baignons dans le collectif la résilience et la pudeur. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle met en opposition une culture noire versus des thérapies, comme tu disais, fondées par des Blancs, et que ça rentre en collision dans la nature même de la culture, quoi. Et je me demandais, toi qui travailles avec l'EMDR, peut-être est-ce que c'est une manière de repasser justement par le corps d'avoir un traitement émotionnel autrement que par la parole ?
Oui, complètement. Bah, peut-être déjà pour revenir sur cette question de la place de la parole dans la thérapie. Alors effectivement, on va dire dans les thérapies traditionnelles, anciennes, il y a cette question de la parole soigne, c'est important de parler, etc. Mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur le trauma, on dit plus forcément ça. Enfin, ça a été revisité. Dans le sens où, en fait, quand on parle du trauma et qu'on n'est pas en sécurité suffisante avec son thérapeute, qu'on n'est pas en sécurité aussi dans sa vie, donc on n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir réactiver ce trauma, en fait, ce n'est pas conseillé de parler de son trauma. Donc aujourd'hui, dans les approches... on nous dit plutôt, il faut plutôt éviter que les personnes parlent de leur trauma si ce n'est pas le bon moment, pour éviter une traumatisation secondaire et pour éviter aussi que de réactiver des symptômes qui seraient extrêmement déstructurants et qui ne peuvent pas être contenus. Donc en fait, la parole, oui, alors je ne dis pas que la parole ne soigne pas, la parole est très puissante, mais dans certains cas, ce n'est pas... non, il ne faut pas absolument parler de ces traumas. En tout cas, pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions.
Ouais, vas-y. Ouais, moi, je viens peut-être dire quelque chose à propos du silence, par rapport à... Mon père était dans sa cuisine, j'ai essayé de mettre en scène l'idée que le père s'exprime... Par la cuisine qu'il fait, et que c'est les plats qui parlent là où lui, il n'arrive pas à dire autre chose que qu'est-ce que tu veux manger ce soir, et que les plats s'expriment là où lui, il a pas la parole, il utilise sa voix pour chanter. Et sinon, voilà, avec cette chose, cette idée qu'il dit, à la fille que. Elle peut être amoureuse d'une fille en donnant en fait une assiette à la copine, qu'il dit je t'aime à ses enfants en leur donnant les plats, et que tout ça, ça passe pas par la parole, mais c'est aussi tout ce qui en fait s'exprime autrement que par les mots.
Et dans ta pièce, en fait, comme tu l'as dit, c'était vraiment une envie de montrer différentes formes d'amour, etc. Mais il y avait aussi, moi j'ai l'impression que dans ce processus en fait de soins, dans notre soin à nos relations, à nos origines, tu proposais un peu une approche un peu spirituelle à des endroits. Enfin, moi, j'ai l'impression de reconnaître quelques rituels avec le nombre d'encens qui est impair, des choses comme ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la place peut-être que tu mets à la spiritualité peut-être dans ce processus, toi ?
Oui, bah, le rituel est quelque chose de très important pour moi dans mon travail artistique de façon générale. J'ai fait un autre spectacle qui est vraiment un rituel qui s'appelle Manama. Et dans ce spectacle, j'utilise pour le coup vraiment des objets de rite hindou. Et je fais un rituel en utilisant le texte que mon propre père, mon père à moi, a écrit quand il s'est suicidé. Il a laissé un poème. Et donc, c'est un spectacle que je faisais une fois par an, le jour de l'anniversaire de sa mort. Et du coup, en mélangeant ce texte avec des chants d'une chanteuse réunionnaise que je trouve incroyable, qui s'appelle Anno Haro, et qui a écrit un album entier, qui s'appelle Kamayang, sur l'inceste. Où elle parle d'inceste pendant un album, quoi. Et qui est hyper, hyper fort musicalement, vocalement et poétiquement, enfin, sur sa parole. Et donc, dans ce rituel, je mélange... Les mots de quelqu'un qui n'a pas pu surmonter ses traumatismes autrement que par le suicide, avec les mots de quelqu'un qui est de ma génération et qui du coup expie les traumatismes, bah, en l'occurrence par la musique. Dans cette mise en scène là, de mon père était dans sa cuisine, j'ai repris un certain nombre de choses. De cette mise en scène de rituel en les décalant, donc en n'utilisant pas les objets de rite hindou et en n'utilisant que des objets du quotidien, ce qui en fait est aussi finalement un retour parce que en fait les objets dont je connais pas les noms étaient de sacrés hindous étaient avant aussi des objets du quotidien qui servaient à la fois d'assiette, le gobelet, etc. Donc initialement il y avait en fait déjà cette sorte de chose perméable entre les objets du quotidien et les objets du rituel, et là du coup j'ai remis ça là dans mon père était dans sa cuisine, où je sais pas si vous pouviez voir, mais au cercle j'avais constitué du coup un cercle avec plusieurs objets qui étaient tous rouges, objets ustensiles de cuisine diverses et qui tous, à un moment donné, sont utilisés dans le rituel que cette fille fait pour son père. Et où les objets de la cuisine permettent d'effectuer un rituel de soins.
Et du coup, moi, sur le rituel, je me disais que effectivement, les religions, elles proposent des rituels, c'est à ça que ça sert d'ailleurs, pour aider les vivants, notamment dans les cas de décès et de trauma. Et encore une petite citation de Douce Dibondo, comme ça elle est un peu avec nous aujourd'hui, où elle dit qu'il n'est pas interdit que les actions collectives soient traversées par des rituels, par exemple un piquet de grève où l'on entonne des chants guerriers ou spirituels anticoloniaux pour invoquer force et protection des ancêtres. Des ateliers du soi peuvent mettre l'accent sur le soin des traumatismes et la compréhension des dons intergénérationnels. Osons utiliser d'autres outils plutôt que ceux validés par le militantisme de la blanchité. Du coup, ça me fait écho à des discussions qu'on a dans l'équipe d'Orga, là, de ces saisons décoloniales, où on aimerait parler rituel, parler spiritualité, de savoir comment, en puisant dans nos singularités, mais aussi dans nos cultures héritées, des fois métissées, on peut se créer des rituels qui nous correspondent. Qui font appel des fois à des choses qui viennent du religieux, mais pas que, et qui soient assez singuliers. On a parlé, par exemple, de faire un autel à nos ancêtres, de se dire, bah, tiens, on peut, si ça nous parle, avoir un espace chez soi avec des objets, des photos, des choses qui sont juste pour nous, vivants, essayer de composer avec nos morts et nos mortes, même si on ne les a pas connus. Leur faire une place quelque part. Enfin, voilà, c'est des discussions qu'on a déjà eues et que peut-être qu'on continuera à avoir.
Et moi, ça me donne envie de parler un peu de l'importance de la communauté, parce que je pense qu'on n'a pas tous hérité de la même manière ou eu la même transmission. Et souvent, quand on parle de transmission au sein de la famille, d'une génération à une autre. Mais j'ai l'impression que dans notre monde concret, autrement, en dehors de ces rapports familiaux aussi, j'ai envie de dire que la transmission, on peut la faire de manière pas horizontale, mais en fait entre personnes d'une même communauté, que justement, qu'on se recrée nos rituels et que, en tant que personne issue d'immigration, on n'aura jamais totalement accès à une culture qui se dit pure. Mais en fait, il faut accepter aussi qu'on peut la recomposer avec qui on est, de là où on vient. Et je trouve que c'est là la force, en fait, de se rassembler entre personnes de la même origine ou qui partagent un processus de racialisation pour se partager, en fait, tous ces éléments-là qu'on n'a pas eu potentiellement de sa famille ou de ses origines, mais en fait, se reconnecter à quelque chose qu'on peut avoir en commun.
Et du coup, toi, Sophie, dans les gens que tu accompagnes ou que tu côtoies, est-ce que tu vois ou tu entends des stratégies qu'ont les personnes pour justement, alors on a parlé de l'EMDR, mais je ne sais pas moi, d'autres stratégies pour de soins pour traverser tout ça? C'est un peu large.
des stratégies pour se maintenir. Enfin, moi, j'aime bien dans la pièce Betty qui dit « Mon père qui tenait debout ». Comment on tient debout, comment on fait face et quels sont effectivement nos endroits de ressources. Et ça, pour le coup, c'est très singulier. Et effectivement, ça peut être la cuisine, ça peut être chez soi, ça peut être l'extérieur, ça peut être la nature, ça peut être aussi comment on se réapproprie nos corps, comment on se réhumanise. Peut-être que ça me permet aussi de faire le lien sur le racisme, c'est quoi ? C'est aussi, c'est historisé, c'est-à-dire que, en fait, il y a des corps qui ont qui, notamment les corps noirs, qui ont été déshumanisés, qui ont été esclavagisés, et que du coup, ça a profondément marqué l'imaginaire colonial qui est encore présent aujourd'hui et actif. Et du coup, dans les expressions de racisme, il y a vraiment cette déshumanisation où en fait on enlève la subjectivité de ces corps. Et du coup, une des manières de soigner, c'est de se réhumaniser. Et la réhumanisation, ça peut effectivement passer par de la création, par des chants, par de la musique, par se reconnecter à soi. Et aussi, bien évidemment, le soutien aussi de l'entourage, donc créer des liens qui nourrissent, créer des liens où on se sent exister, on se sent reconnu, ça c'est aussi extrêmement important, parce que il y a un peu une double peine, il y a quand on vit de la racialisation et encore en plus il y a des traumas, c'est que le trauma isole et fige, ça c'est les effets du trauma, il isole parce que il déshumanise en fait. Des personnes très traumatisées peuvent dire, par exemple, qu'elles ne se sentent plus appartenir à la communauté des humains parce que c'est tellement difficile ce qui a été traversé que c'est comme si ça venait enlever la part d'humanité. Donc il y a vraiment cet effet du trauma et ça qui est un effet partagé de tous. Et en plus, le racisme vient déshumaniser. Donc on voit que ça peut être très puissant et du coup la question ça va être comment on retrouve des espaces où on peut se reconnecter à notre humanité.
Et encore une fois pour citer Douce Dibondo, décidément c'est ce sera juste la troisième fois, justement dans la charge raciale elle parle aussi de la parole, même si elle propose aussi de passer par d'autres rituels, mais de se dire en fait dire je, c'est aussi reprendre le pouvoir comme un être singulier. Et pour le coup, ça, c'est ce que fait la psychanalyse aussi. Mmh. C'est être un être... être sujet de son histoire et dire « je » dans un espace thérapeutique ou sur scène, dans un espace artistique, ou dans un texte ou dans n'importe quel espace. C'est une manière de se réhumaniser ou de s'humaniser si on ne l'a pas été, quoi.
Et ça peut passer par un travail sur le lien à la famille, parce qu'aussi le regard qui est porté par la blanchité sur les histoires des personnes racisées, ça peut faire que parfois on porte des jugements sur nos propres familles, sur la question de la honte, et de réactualiser ces regards-là, de se reconnecter, de poser des questions. Ça participe aussi à la réhumanisation ou de l'incompréhension. Remettre du sens et de la cohérence à des choses qui peuvent paraître incohérentes, Voilà. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée quand Betty dit, bah, en fait, je me rendais pas compte de tout ce qu'on m'a transmis, parce qu'en fait, bah, dans la blanchité, peut-être que la place de la cuisine, de comment on doit aimer, enfin, il y a un peu des codes comme ça qui, en fait, sont pas du tout les mêmes dans l'expression de plein d'autres cultures, et c'est comment on se reconnecte à nos histoires avec aux bons endroits. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée dans ce que tu as proposé.
Sur la question du soin, ce que j'ai cherché à mettre en scène dans ce spectacle, c'est le soin réciproque. En fait, à la fois, on voit le père qui prend soin de sa fille, de ses enfants, et qui prend soin dans le quotidien. Et à la fois, on voit la fille qui prend soin de son père, de la mémoire de son père, de l'esprit. Enfin, elle prend soin d'un mort. Et elle effectue du coup un rituel de sanation. Bah, tu disais tout à l'heure, en fait, tu rebondissais sur cette idée de je veux me souvenir de ça. Qu'est-ce qu'on choisit de prendre avec soi aussi, de garder parmi tout ce qui nous est transmis. Et du coup, c'est la fille qui effectue un acte de soin à travers ce rituel pour garder en fait de ce père et faire vivre l'amour de ce père plus que sa souffrance. Et réciproquement, à travers ça, on voit le père qui prend soin de sa fille. Et du coup, c'était pour... j'avais envie de donner à voir la... C'est pas vraiment une réciprocité, parce qu'en fait, ça passe par des choses différentes, sur des temporalités différentes, par des actes différents, mais plutôt une forme de circulation dans les processus de soins vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres.
Et avant de vous donner la parole pour que vous puissiez soit réagir, soit poser des questions, on avait quand même envie de parler de la question de vivre à la campagne et de la ruralité sur ces questions de soins, parce que bah d'ailleurs nos camarades l'ont dit en ouverture là juste avant le spectacle sur en fait vivre à la campagne, c'est aussi avoir des ressources qu'il n'y a pas en ville, notamment celles de la nature, mais c'est aussi un truc ambivalent qui est aussi être plus visible, et on en avait parlé lors des saisons décoloniales à l'automne. On avait envie de nommer cette ambivalence-là. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire quelque chose sur le fait de... c'est aussi s'éloigner de la communauté, d'une communauté peut-être plus facilement trouvable en ville.
Oui, après, je ne sais pas. Enfin, moi, j'essaie de ne pas trop parler de moi, mais de mon travail. Mais en tout cas, c'est une question que dans le texte que je suis en train d'écrire en ce moment, je me suis posé la question de si j'intégrais cette question-là, d'un personnage racisé qui vit en ruralité, et comment est-ce qu'il est perçu comme tel. Et je trouve ça très difficile à aborder, en fait, comme sujet, parce que ça me pose des questions sur comment ne pas renvoyer l'idée que finalement les gens blancs ruraux seraient plus racistes que des gens urbains, blancs. Et du coup, parce que c'est peut-être aussi un cliché, peut-être que le racisme s'exprime autrement en fonction des espaces. Mais voilà, du coup, je sais pas trop comment traiter ce sujet. Peut-être que je vais pas le mettre dans mon schmilblick. Mais je trouve ça délicat parce que je trouve que c'est un vrai sujet et comment on le traite pour pas en fait non plus refaire aussi des ricochets de stigmatisation qui sont pas
des gens qui vivent à la campagne,
exactement, ouais. C'est ça.
Moi j'ai envie de dire en fait les saisons décoloniales, on les a intitulées comme ça aussi parce que oui, on a décidé de vivre en ruralité et aussi d'implanter quelque chose. Et j'ai l'impression que faire des choses en ruralité dans notre territoire, c'est qu'on a plus l'impression qu'on peut faire en sorte que les gens soient plus mobilisés. Et en fait, je le vois là, c'est qu'on est hyper nombreux, que j'ai l'impression qu'on aurait fait un événement décolonial en ville. Ça se mêle parmi tellement d'autres sujets, alors que là, en fait, on a fait la communication de cet événement, qu'on va parler de décolonial en ruralité. Et ben, on sait que tous nos potes qui habitent dans le coin, ils vont se mobiliser, ils vont venir, ils vont en entendre parler. Et moi, je trouve que c'est un peu peut-être la force de la ruralité à des endroits. C'est peut-être qu'on n'est pas très nombreux, mais qu'on a plus la capacité de réunir les gens au même endroit parce que, en fait, on se connaît et on a aussi décidé de vivre ici et qu'on a envie de rendre, en fait, vraiment réfléchir sur ces questions-là, mais pas que sur la question de racisme. Il y a plein d'autres questions qu'on doit balayer ensemble, mais j'ai l'impression que c'était plus simple de... peut-être pas de faire communauté, mais de faire quelque chose ensemble, en tout cas.
En tout cas, moi, ce que je peux dire sur cette question de vivre à la campagne, il y a quand même une question de représentativité, où, en fait, on est plus visible et que ça a un effet où, en fait, il y a quand même l'anonymat est impossible. Moi, je pense, quand je suis arrivée à Cré, on sent tout de suite que les gens nous repèrent. Même là, à Bordeaux, je me rends compte que c'est un petit village de 800 habitants. Il y a quelque chose où il y a une visibilité qui... Ou alors qu'en ville, il y a quand même la possibilité de vivre dans un anonymat. Et ça, quand même, ça produit des choses, je trouve, très différentes. Et notamment le regard aussi. Enfin, moi, je trouve que le regard... je parle de mon vécu, mais quand je suis arrivée à Cré, je me suis rappelée... et notamment le regard des enfants blancs. Et ça, j'avais oublié que, en fait, les enfants blancs qui n'ont pas l'habitude, du coup, de voir des personnes racisées, ils ont un regard je ne saurais pas comment le décrire. Mais
de
en
surprise
tout,
ou de peur
surprise, enfin... pas, alors, des fois de peur, des fois de surprise. Mais pour moi, ça paraît anecdotique, mais ça m'a renvoyé au fait que, ah oui, c'est vrai, en fait, il y en a tellement peu que même des enfants, on ne peut pas dire que c'est fort, enfin, que c'est... En tout cas, il y a quelque chose de très spontané. Il y a quand même cette chose de dire, ah oui, c'est vrai, en fait, ça amène quelque chose de ce manque de représentativité qui est spécifique, je trouve, dans la ruralité. Et notamment, là, je vous partage ça parce que j'ai mes cousines qui sont venues à Bordeaux il y a une semaine et elles m'ont dit, mais le regard des gens, c'est un sujet, quoi, le regard, vraiment.
Et du coup, l'impact aussi psychique, on en parlait vu qu'on est sur cette thématique-là, qu'est-ce que ça fait d'être l'objet de ces regards-là ? Quelles conséquences ça peut avoir sur l'estime de soi, sur pouvoir juste vivre sa vie tranquillement, je ne sais pas.
Bah en tout cas, ça fait vivre de l'altérisation, surtout. C'est-à-dire de se dire que je suis l'autre, c'est être autre, qui est sans cesse réactualisé. Et à des endroits où, des fois, on va faire ses courses. Ah oui, c'est vrai, on est toujours dans un dedans-dehors, on n'appartient pas. En fait, je crois que c'est ça, c'est sentir qu'on ne peut pas appartenir.
Je reviens du coup avec les trucs que j'amène, mais ça me fait penser, là tu dis je suis l'autre, en fait c'est un peu ça aussi les paroles du coup de la chanson du grand-père au début de mon spectacle où il dit je m'appelle l'étranger, mon nom est l'étranger, à propos d'un grand-père qui lui n'a pas immigré, qui ne raconte pas cette histoire-là, mais que c'est aussi ça qui est vécu, le fait d'être pardon, je m'embrouille, hein.
voilà. Eh ben, on va écouter un petit son, avant, comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir à des questions que vous auriez envie de poser ou des réflexions que tout ça vous provoque. Tu nous as choisi quelque chose qui va nous faire du bien, qui rebondit bien avec tout ça.
Moi, j'ai choisi une chanson de Rihanna, Take a Bow, parce que, en fait, peut-être qu'au moins, c'est une référence commune et ça nous permet de se retrouver un peu ensemble. Que ça détendra un peu l'atmosphère. Voilà, j'ai pas mis ces tubes de danse ou quoi, enfin, tranquille.
So dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out.
C'était Rihanna sur ce plateau, sur ce que le racisme fait à nos santé mentale. On arrive vers la fin de ce plateau. On a brassé pas mal de questions autour de l'exil, autour de la transmission, autour du silence, autour de la parole, autour du soin. Il y a probablement des choses dont on n'a pas eu le temps de parler. Et on avait quand même envie que vous qui avez écouté et que peut-être qui avez aussi vu le spectacle d'Anuradha, vous avez peut-être des questions, soit à l'une, soit à l'autre. Ça peut être juste des réflexions, on n'est pas obligé d'être dans un format de questions. Ça peut être aussi juste quelque chose qui vous inspire de tout ce qui a été dit là. Et on se laisse un gros quart d'heure, 20 minutes pour ce temps d'échange. Et après, ce sera le moment du goûter, parce que ça fait aussi partie des choses... pour se faire du bien à nos santé mentale. Et c'est Johanna qui va passer le micro, du coup, juste faire un petit signe, et puis voilà. C'est le moment, la parole est à vous.
Ouais, mais moi, c'est pas une question, c'était plus un partager quelque chose qui m'est venu là en écoutant ce qui s'est dit, aussi d'un point de vue de l'organisation de cet événement. Je me rends compte, enfin, je m'en suis rendu compte de la dernière journée, mais particulièrement celle-là aussi à cause de la thématique, que c'est quelque chose de très émotionnant. Enfin, je nous ai vus émus les uns les unes les autres. Je nous ai vus aussi, voilà, assez vulnérables dans le fait de s'exposer à parler de ces questions-là. Et ça me faisait écho à ce que Sophie, tu décrivais dans, en fait, le processus de silenciation, c'est aussi une manière de se préserver. Dans nos traumas, c'est aussi une manière de prendre soin de nous. Là, on a décidé ensemble de se sortir de ça et de s'exposer aussi comme organisatrice d'un événement pour parler des questions de racisme et des questions de santé mentale. Et donc, c'est aussi quelque chose qui vient nous brasser. Et ça me faisait penser qu'on a eu beaucoup cette conversation entre nous de à qui s'adresse cet événement et comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir en dehors de nos cercles amicaux, militants, etc. Et que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. On met pas beaucoup d'énergie là-dedans. Et en fait, là, en écoutant, je me disais, en fait, c'est aussi normal qu'on passe par ce processus-là de déjà, c'est très exposant, même vis-à-vis de gens où on se dit qu'il y a de la bienveillance et que ça va aller. C'est très exposant de venir dire, moi, j'habite ce territoire, je suis victime de racisme, ça a un impact sur ma santé mentale. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et donc, peut-être, c'est aussi... je trouve que c'est l'étape qu'on vit là, de se réunir, moi, je la trouve super forte, parce que ça fait aussi... Enfin, moi, en tout cas, je me dis dans mon processus de soins, de voir que dans le territoire que j'habite, il y a 100 et quelques personnes qui veulent venir se réunir pour entendre ces sujets-là, ça participe à ça. Et donc, j'ai envie de nous inviter à continuer aussi à être présents, aussi pour les personnes blanches, à être présents dans ce type d'événements de réflexion, parce que c'est aussi une manière de soutenir la santé mentale, de faire du soin pour votre entourage et les personnes racisées.
Je vais essayer de poser la question simplement. Je me demandais, en tant que blanche ou blanc, quand on a la sensation qu'une personne racisée subit du racisme, justement, à quel point c'est d'accord, pas d'accord d'aller sur ce sujet-là avec cette personne, et comment le faire de façon, j'imagine, tendre ou douce, ou voilà, parce que justement, le processus de silence est là aussi. Voilà, c'est une question, je ne sais pas si c'est clair.
Ouais, puis c'est une question qui est pour tout le monde, finalement, ta question, comment on peut faire ça? Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, Sophie, ou Thi, ou Anuradha?
Moi, je trouve ça difficile d'en parler de manière généraliste. Enfin, c'est toujours plus facile avec des exemples précis, parce que ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, je ne sais pas si aller voir la personne, je pense que ça dépend du lien avec la personne. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une personne qu'on ne connaît pas? Est-ce que c'est une personne qui est seule à être racisée? Enfin voilà, je trouve que ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, peut-être moi, ce que je trouve important, c'est que s'il y a un acte de racisme et qu'on est témoin en tant que personne blanche, c'est de au moins en dire quelque chose, pas forcément adressé à la personne, mais adressé... aux personnes qui font vivre le racisme, pour que ce ne soit pas la charge de la personne racisée de porter ça.
Et que ça puisse aussi, en position de témoin, peut-être relever quelque chose qui, toi, t'a dérangé ou que t'as bien vu que t'étais témoin de quelque chose de raciste, de faire exister ça dans l'espace. Et ce n'est pas toujours évident, mais de le soulever, quoi, au moins, je me dis.
Mais encore une fois, je trouve ça difficile de répondre à cette question de manière générale.
Ouais, il y avait une autre question.
Oui, déjà merci pour cette table précieuse. Je voulais vous poser une question. Comment vous articulez en fait le côté individuel, personnel du soin et du coup du racisme et avec le côté collectif et politique, dans le sens où on remarque quand même que s'il y a des limites à ce qu'on peut faire tout seul, que ce soit psychanalyse ou du soin ou dans la guérison, entre guillemets, et comment la lutte, elle aide aussi à surmonter des choses et qu'en fait, on a besoin des deux volets. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein, qu'on a besoin autant du volet politique collectif de la lutte que de l'effort individuel aussi. Et si vous avez, je sais pas, des quelque chose à dire à ce sujet, en fait.
Ah bah Douce, elle a quelque chose à dire.
Du coup, je vais lire un extrait qui est toujours sur « Qui a peur du psychopolitique ?» Il ne peut pas y avoir de libération s'il n'y a pas de prise de conscience individuelle. L'intériorité doit se mettre au service de la libération collective. Plus le soi, l'intériorité, l'inconscient sont appréhendés, plus l'autre devient un miroir. Il devient ainsi évident que la libération de l'autre est une libération collective, y compris de ma propre personne.
Moi, je le comprends un peu comme ce que tu dis là, c'est-à-dire que c'est pas à opposer l'un à l'autre et que, en fait, on se balade tous là dans nos milieux politiques avec des... Enfin, on est tous tous polytraumatisés par plein de choses, et notamment le racisme, et notamment les processus de racialisation. Et du coup, plus on va les soigner, et moins on va peut-être retraumatiser d'autres, moins on va... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va ensemble, et que ça s'articule. Je sais pas ce qu'on peut en dire d'autre, ouais.
Bah ouais, moi je trouve qu'il y avait la réponse dans ta question, en tout cas que... enfin, c'est ta réflexion. Mais effectivement, en tout cas, je pense que les deux sont très importants. Quand on parle de trauma, il y a quand même des mécanismes spécifiques, émotionnels. Je pense qu'il est bien traité de manière individuelle pour pouvoir amener de l'apaisement et pour pouvoir se reconnecter. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le trauma, ça isole. Et en fait, se reconnecter, ça participe aux soins. Donc, se sentir relié à l'autre et aussi dans un processus d'humanisation, en fait, c'est fondamental. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans les thérapies de prise en charge de trauma. En fait, on va travailler sur les figures qui vont venir apporter du soin, qui amènent, enfin, ce qu'on appelle les figures symboliques. Et du coup, c'est comment on va réactiver, en fait, de la reconnexion dans un processus de soins.
Peut-être pour parler du collectif qui organise ces événements, moi j'ai l'impression que en fait on était plusieurs déjà à s'en parler en interperso de toute cette question-là, du racisme, et que moi ce que je vois c'est que à chaque fois qu'on se fait des réunions entre nous, enfin c'est vraiment des moments où on est tous trop contents de brasser ces sujets-là. À savoir qu'on est une orga mixte, on n'est pas que des personnes racisées, et que ça fait aussi hyper du bien de voir qu'en fait on n'est pas les seuls à se mobiliser sur ces questions-là. Mais moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, en fait on est vraiment content d'apporter, en fait de réfléchir sur ces sujets-là, savoir comment on les pose aussi dans le Royan, comment on en discute ensemble, qu'est-ce qu'on veut amener, qu'est-ce qu'on veut partager avec les gens qui vont venir ici. Et moi j'ai l'impression que c'est à ces endroits-là que c'est très renforçant, en fait, d'être dans du militantisme ensemble, qu'on n'est pas tous dans exactement les mêmes milieux, mais on se reconnaît sur ces endroits-là qu'on veut faire avancer ensemble.
Et moi, ma méthode, c'est de raconter les histoires, qui est aussi une façon de faire, en fait, du collectif, c'est-à-dire de mettre dans l'espace commun des histoires individuelles, des histoires qui touchent à l'intime, et parfois à l'intime de façon très, très, très profonde, et d'aller chercher qu'est-ce qui, dans nos vécus, parle de choses qui peuvent, dans lesquelles d'autres personnes peuvent se retrouver, qui nous touchent, qui sont liées à des questions politiques, et de raconter ces histoires, et de raconter comme... Moi, je crois dans le fait que raconter des histoires, ça permet de sortir de certaines solitudes, de ressentis où on a l'impression parfois qu'on a des choses qu'on n'arrive pas bien à nommer, où il n'y a pas trop d'espace dans la vie sociale pour en parler. Et du coup, moi, ma façon de faire du collectif dans ces traversées-là, c'est de mettre en récit. Et souvent aussi, un truc qui me touche dans le fait de faire ces récits, c'est que souvent, ces récits, ils provoquent après le fait que les personnes parlent. De choses qui sont très profondes et dont en fait elle parle pas souvent. Et du coup, moi je crois dans le fait que raconter des histoires, ça ouvre le commun de comment est-ce que ce monde il nous marque, et que voilà, ça aide à se l'approprier ensemble, quoi.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Anuradha, et en tant que personne. En tant que personne racisée, métisse, du coup multiracisée, je pense que déjà vous m'avez apporté beaucoup plus de soins que tout ce que j'ai pu essayer d'obtenir avant. Du coup, je suis complètement d'accord avec ce truc de récit et on a besoin d'entendre et que vous créez cet espace pour essayer de nommer des choses. Je trouve que c'est une force énorme. Mes questionnements dans mon parcours individuel, où j'ai eu tendance à un peu fuir ma famille qui a énormément silencié ces traumas, je me suis énormément réfugié dans la lutte et dans la colère. Mais je me rends compte qu'effectivement, des fois, ça suffit pas pour arriver à se libérer aussi individuellement. Et surtout quand bah, on fait face au silence de nos origines et de nos parents. Et du coup, oui, je pense qu'effectivement, c'est une grande force de pouvoir juste mettre en commun nos récits et créer des espaces pour pouvoir en parler, notamment par les personnes concernées. Et ouais, je suis... Enfin, je pense qu'on manque aussi cruellement de ce type d'espace et qu'il y a encore beaucoup trop de préjugés sur ce qu'est le racisme et qu'effectivement, on ne parle pas assez de la santé mentale. Et que même dans les milieux militants, malheureusement, quand on parle de racisme, on parle beaucoup trop de... Ben, on ne parle pas assez de ce qu'on vit en tant qu'individu racisé et ou que des fois, ça peut être un peu... des milieux militants blancs, radicaux, qui vont se croire solidaires en essayant notamment de soutenir les personnes migrantes sans papier, ce qui est nécessaire et super, mais ce qui peut aussi parfois invisibiliser les vécus et parcours des personnes qui descendent notamment de l'immigration. Et qu'au final, on a peu d'espace ou de capacité ou d'oreilles qui peuvent... nous permettre de faire exister tout ça. Donc, ouais, je trouve qu'en tout cas, ce que tu fais, Sophie, et tout ce que tu dis, ça touche énormément et c'est vraiment très, très utile. Voilà, merci en tout cas.
C'est vrai que pour revenir peut-être au milieu militant, moi, j'ai l'impression qu'à titre personnel, c'était plus simple de parler d'antiracisme pour avoir quelque chose à dire, pour lutter. Mais j'ai l'impression qu'aller dans ce chemin-là, en fait, c'était vachement des enjeux de valorisation sociale dans le milieu de gauche. Mais que pour autant, ça ne permet pas de se reconnecter et de se ressourcer. Et que j'ai l'impression que c'est à ces endroits-là que j'ai envie de parler de décolonial, parce que ce n'est pas en incarnant une figure de lutte qu'on se fait du bien, forcément. Parce qu'à côté de ça, ça ne permet pas, en fait, de se reconnecter à qui on est. Qu'on n'incarne pas que des figures de lutte. On est... pas que des personnes qui sont là pour parler d'antiracisme, mais on est aussi là pour parler de qui on est, de là où on vient, de qui sont nos familles, qui sont nos communautés. Et je crois que c'est à cet endroit-là qu'on a besoin de faire de la lutte, mais de la lutte aussi au sein de sa communauté, entre personnes qui se comprennent aussi, quoi.
Ouais, moi, je voulais quelque chose. En fait, ça me fait penser à beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas rebondir sur tout, parce que voilà. Mais moi, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un Hanouka à Grenoble. Et du coup, c'est Hanouka, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un moment de célébration juive. Et en fait, ça m'a fait vraiment un effet de soin, dans le sens où moi, j'ai jamais eu accès, en tout cas, à la culture. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'aspects de la culture juive que j'ai pas eu accès. Et c'était un moment, du coup, de reconnexion collective avec de la spiritualité, et où il y avait notamment, on a chanté plein de chansons, et notamment des chants de résistance palestinienne et de plein d'autres langues. Et en fait, par exemple, à des moments, moi, j'ai de la difficulté à me rattacher à mon identité juive, parce que ça a été énormément essentialisé au fascisme génocidaire. Et du coup, se rattacher à une identité qui est systématiquement relié au fascisme génocidaire d'Israël, ça met un endroit extrêmement complexe, parce que le traumatisme génocidaire, on l'a aussi en nous. Et du coup, ce moment-là, c'est la première fois que un aspect de la spiritualité m'a fait comme un soin. Je me rappelle vraiment que ça m'a, et du coup, je trouve que c'est extrêmement dur de se rapproprier de la spiritualité quand c'est hyper dogmatisé, et que nous, de nos places où on est obligé à des endroits de réinventer ce rapport à ça, et de comment on va mener nos rites et nos spiritualités, parce qu'on parce que le dogme, quelque part, nous empêche d'être aussi nous à plein d'endroits, et quelque part, on réinvente quelque chose en même temps. On continue de faire vivre quelque chose qui, sinon, on aurait pu s'en couper. Et aussi, moi, pour revenir sur la ruralité, je sais que Moi, vivre à la campagne, ça fait partie des trucs nécessaires pour ma santé mentale, de pouvoir aller marcher dans la montagne et voir personne. Je sais qu'aussi, c'est un espace où je vais pas... C'est pas tant... Alors, je sais pas à quel point je suis perçu racisé. Ça, c'est encore un enjeu compliqué. Mais en tout cas, pédale et trans, ça, il n'y a pas de souci. Je crois bien que je suis perçu comme ça. Et que ça, c'est clairement la campagne, ici... C'est énormément de regards tous les jours, tout le temps, et que, genre, par exemple, aller faire des courses, des fois, c'est genre. La plupart du temps, ne pas regarder les regards, ok, mais en fait, ça finit par nous atteindre quand même. Et que. Par rapport à la ville, et c'est pas forcément mieux en ville où des copines trans, elles vivent des agressions directes, des menaces de mort, et j'en passe. Et que du coup, je me sens à la fois privilégiée en étant à la campagne. D'être dans une campagne, en tout cas, où je ne me fais pas insulter et menacer. Mais en tout cas, la question du regard et du coup de comment on est altérisé, ça, c'est un truc, c'est tous les jours, tout le temps, partout. Et notamment, moi, quelque chose que, quand j'ai commencé à m'installer ici, dans le village où je vis, je disais bonjour à toutes les personnes que je croisais, et au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire ça, parce que je me suis rendu compte de la quantité de personnes qui ne répondaient pas. Et du coup, ça me renvoyait vraiment à un endroit où moi, je ne pouvais pas continuer de juste mener ça. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, j'ai l'impression, c'est qu'à force de se retrouver confronté à ce genre de situation, aussi, on se protège, on se ferme et on ne regarde plus les gens, ou alors j'y vais en mode guerre. Et du coup, je dois renvoyer de la colère, je dois renvoyer, en tout cas, de la colère et du mépris. Et que ça bloque à plein de moments pour... être dans la rencontre, mais que en fait c'est aussi nécessaire pour la survie et que enfin voilà et du coup c'est la boucle qui se boucle parce que du coup les gens me voient en colère et du coup se disent ah c'est des gens c'est une personne qui peut être violente nanani nana parce qu'elle a l'air en colère parce qu'elle va enfin voilà c'est bon bref je suis en train de m'étaler mais en tout cas pour la santé mentale j'ai l'impression la campagne ça vient jouer des trucs qui sont importants pour moi, mais enfin... Enfin bon, voilà.
L'ambivalence dont on parlait. Est-ce qu'il y a une dernière volonté de prise de parole avant qu'on clôture ce plateau ? C'est maintenant. Ah, il y en a une. Toute dernière.
Moi, je voulais juste balancer l'info qu'aux Pays-Bas, ils ont reconnu... le trauma colonial comme problème de santé publique.
Ah ouais.
Du coup, je mets ça dans les esprits en espérant qu'on avance ici aussi.
Bon ben voilà, ouais, ça merci. Fait une belle conclusion. On va s'arrêter là pour ce plateau. Merci à vous trois.
Merci à toi.
Pour ces échanges. C'est le moment du goûter. Et merci à l'équipe cantine qui nous vient du Trièves d'avoir préparé des gâteaux pour ce goûter.
Et des tartines.
Et des tartines et des choses qui vont nous réchauffer l'intérieur. Et après, on enchaîne sur une projection de film d'ici une petite vingtaine, trentaine de minutes. Mm.